Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'études sur le mariage avec une étude sur les devoirs de l'homme dans le foyer. Dans cette quatrième leçon dans notre série d'études sur le mariage selon le plan de Dieu, nous voulons examiner les rôles de l'homme. Par la suite, si Dieu le permet, nous verrons les responsabilités de la femme. Chacun a des devoirs à accomplir pour le bon fonctionnement du foyer. Quand chacun comprend et accepte son rôle, la paix dans la maison est favorisée, presque assurée. Mais non seulement chacun doit accepter le rôle que Dieu lui donne, il doit aussi aider l'autre à jouer son rôle et accomplir ses devoirs. Prenons d'abord le cas du mari et détaillons quatre responsabilités principales qui lui reviennent. D'abord, l'homme est chargé de la direction de la famille. L'apôtre Paul a enseigné clairement ce principe en Éphésiens 5, versets 22 et 23. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. » La même idée ressort des instructions que l'apôtre a données concernant ceux qui peuvent être nommés comme évêques ou pasteurs dans les Églises, ceux-là qui devraient servir de modèle à tous les chrétiens. En parlant de celui qui aspire à la charge d'évêque, la Bible dit « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission » et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée 3, versets 4 et 5. En tant que chef de la famille, l'homme a la responsabilité de la conduire dans une bonne voie. Dans les affaires physiques, telles que les questions de nourriture, vêtements, logement, santé, scolarité, etc., l'homme est responsable. Il doit prendre les initiatives nécessaires pour s'assurer que tous ses besoins sont satisfaits de façon acceptable pour le bien-être matériel de ceux qui sont à sa charge. Pareillement, sur le plan moral et spirituel, c'est l'homme qui doit être le conducteur. Il devrait établir des habitudes constructives telles que les temps de prière et d'études bibliques et écarter ce qui serait d'une influence négative, telles que l'alcool, certaines émissions à la télévision, les jeux de hasard et bien d'autres choses. Avant tout, il doit être pour sa famille un exemple à suivre par sa bonne moralité et sa crainte de Dieu. Beaucoup d'hommes aiment l'idée qu'il leur est donné d'être chef de la famille, mais ils ne voient qu'un côté de ce rôle. Ils veulent détenir de l'autorité sur les autres, mais ils négligent leurs responsabilités. Avoir de l'autorité ne signifie pas, en effet, qu'on impose égoïstement sa volonté aux autres membres de sa famille. Il n'est pas question de se détendre et de se faire servir. Celui qui est chef doit considérer soigneusement les besoins et même les désirs des individus et de l'ensemble, et puis chercher à faire ce qui est bien pour tous. Il n'est pas question d'être un dictateur. Notre modèle, comme nous l'avons vu en Éphésiens 5 tout à l'heure, et Jésus lui-même. Jésus est chef de son Église, mais Jésus se sacrifie pour elle. Il ne cherche pas son intérêt personnel. Il dirige son Église de manière à la conduire au salut éternel. L'homme doit faire autant pour sa famille. Deuxièmement, l'homme est chargé de soutenir sa famille sur le plan matériel. En fait, 1 Timothée 5, verset 8 dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Si l'on a les moyens de s'occuper de sa femme, ses enfants, et même ses parents âgés, et que par égoïsme, paresse ou négligence, on ne le fait pas, on n'est tout simplement pas un chrétien fidèle. On ne suit pas la volonté de Jésus et on fait honte à son Église. Celui qui est chef de la famille a le devoir d'assurer le nécessaire pour satisfaire aux besoins légitimes des siens. Un mari doit donc bien travailler. La Bible ordonne à l'Église de s'éloigner de celui qui est capable de travailler, mais qui ne le fait pas. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Car lorsque nous étions encore chez vous, nous vous disions expressément, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 et 10 à 12. L'essentiel n'est pas un salaire qui rapporte de l'argent en espèces. Un homme courageux peut nourrir sa famille par ses travaux champêtres. S'il travaille bien, il accomplit son devoir de chrétien dans ce domaine. Non seulement le mari doit travailler, mais il doit être un bon gérant. Trop souvent, les hommes donnent très peu à leurs femmes pour nourrir et habiller la famille, tandis qu'ils gardent le reste pour boire, pour jouer à la loterie, pour se promener partout et s'amuser. Un chef de famille qui gère mal et gaspille l'argent de la famille n'est pas digne. Il ne prend pas soin des siens comme la Bible le demande. Un troisième devoir du mari est celui d'aimer sa femme. Écoutons encore les paroles de Paul en Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Éphésiens 5, versets 25 à 30. Le mari doit aimer sa femme, premièrement, comme Christ aime l'Église. Or, Jésus a sacrifié sa vie pour elle. Nous devons aimer nos femmes à ce point-là. Deuxièmement, l'homme doit aimer sa femme comme une personne aime son propre corps. Dans un sens, sa femme est son propre corps, puisqu'ils sont devenus une seule chair dans le mariage. Nous nourrissons et nous prenons soin de nos corps. Un mari chrétien fera autant pour sa femme. Il cherche l'intérêt de sa femme et non pas son propre intérêt à lui. Remarquons que la Bible ne dit pas aux hommes de soumettre leurs femmes, de les obliger à se soumettre à l'autorité de l'homme. Le devoir de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Quand la femme voit que son mari l'aime comme Christ aime l'Église, elle ne le trouvera pas difficile de se soumettre volontairement à lui. En effet, en tant que chrétiens, nous nous soumettons à Jésus parce qu'il a prouvé son amour pour nous. Les maris doivent démontrer leur amour pour leur femme de plusieurs manières. Quand un homme célibataire veut gagner le cœur d'une jeune femme, il sait lui faire des compliments et exprimer sa tendresse. Il emploie de la courtoisie. Il lui parle avec des paroles douces. Il lui fait des petits cadeaux. Pourquoi s'imagine-t-il que cela ne fera plus plaisir à sa femme après la cérémonie de mariage? Mais ce n'est pas seulement par la bouche qu'on fait savoir qu'on aime. L'homme peut témoigner son amour pour sa femme en lui faisant part de ses idées et ses projets, en l'écoutant, en lui donnant de l'argent pour ses besoins, en ayant du respect pour sa famille, en l'aidant à s'occuper des enfants ou de certaines tâches domestiques, surtout quand elle ne se porte pas bien, et en lui donnant de l'encouragement dans sa vie spirituelle. Il montre son amour aussi par ce qu'il ne fait pas. Par exemple, l'homme chrétien doit se garder de frapper sa femme. Elle n'est pas une bête qui ne comprend pas le langage humain. Elle n'est pas un petit enfant qui n'est pas encore capable de raisonner. L'homme qui a recours à sa force supérieure pour faire comprendre quelque chose à sa femme est généralement celui qui manque de patience, de maîtrise de soi ou d'argument. En fait, si un homme ne traite pas sa femme avec le respect qu'il convient de lui accorder, il risque de ne pas être écouté quand il prie Dieu. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, verset 7. Aux yeux de Dieu, les hommes n'ont pas une plus grande valeur que les femmes. Les femmes chrétiennes attendent la même récompense céleste que les hommes. Nous héritons ensemble de la vie éternelle. Que les hommes apprennent donc à honorer leurs femmes. Un autre devoir de l'homme dans le foyer concerne l'éducation des enfants. Éphésiens 6, verset 4 nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Hébreux 12 parle également du rôle des pères dans l'éducation et la discipline des enfants et le compare à ce que Dieu fait pour nous en tant que notre Père divin. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Hébreux 12, versets 7 à 11. Comme dans les autres domaines de la vie familiale, c'est l'homme qui doit diriger. Il doit s'occuper du développement de ses enfants de tous les points de vue, surtout spirituels. Quand les enfants sont nourris et scolarisés, le père ne doit pas supposer que son travail est fini. Est-ce que ces enfants savent comment se comporter envers les autres? Connaissent-ils Dieu et sa parole? Sont-ils capables de prendre de bonnes décisions morales? Ont-ils des amis qui auront une bonne influence sur leur vie? Parfois, il faut punir nos enfants. Comme dit l'auteur du passage que nous venons de lire, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Cela est vrai pour l'enfant, mais aussi pour le parent qui aime son enfant. Mais il produit plus tard son fruit. L'enfant devenu grand sera une personne de bon caractère, juste, honnête, travailleur, en fin de compte, heureux. L'homme ne doit pas laisser toute cette charge à sa femme. Dans son amour maternel, elle va naturellement suivre ses enfants, s'inquiéter pour eux, s'occuper de leur avenir. Mais trop d'hommes ne s'intéressent guère à l'éducation de leurs enfants, surtout quand ils sont petits. Pourtant, ils devraient travailler aux côtés de leur femme pour poser chez les enfants une bonne fondation de moralité, de discipline, de respect pour l'autorité et de connaissance de la parole de Dieu. Ils devraient même prendre l'initiative dans tout cela, puisque c'est à eux que la Bible s'adresse. « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Quel est le rôle de l'homme dans le foyer? Il doit être un bon conducteur sur tous les plans. Il prend soin de la famille sur le plan matériel. Il aime sa femme. Il éduque ses enfants. Ce n'est pas un travail à prendre à la légère. Pour être un bon mari et père de famille, il faut demander l'aide de Dieu chaque jour et s'instruire régulièrement dans sa parole. Que Dieu vous aide donc à être de bons maris.